Bonjour à chacun. Ce matin, dans notre série sur les questions que Jésus pose dans les évangiles, je vous propose de nous arrêter sur celle qui est, à mon sens, incontestablement la plus difficile de toutes. C'est une question à part. Une question qui, du moment où je me suis mise à y réfléchir, ne m'a plus quitté pendant toute la semaine. Une question qui nous met devant le mystère de l'incarnation, devant le mystère de la croix et devant le mystère de la mort de Jésus. Une question qui nous fait effleurer, toucher du doigt quelque chose de l'abîme insondable des souffrances de Jésus, mais aussi de son amour incommensurable pour nous. Une question devant laquelle nos mots d'explication ressemblent à des balbutiements. Tant nous nous approchons de l'indicible, de l'insondable, tant nous nous sentons petits et démunis devant les perspectives ouvertes par cette question. Alors que nous arrivons bientôt dans notre calendrier à la semaine de Pâques, à la passion de Jésus, notre question résonne d'autant plus fort. Quelle est cette question ? Je vous invite à la découvrir dans le texte de l'Évangile de Matthieu que nous allons donc méditer ce matin. Je lis Matthieu chapitre 27, versets 45 à 50 et je lis dans la traduction de la Nouvelle Bible Second. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus cria, « Eli, Eli, lema sabachthani », c'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent. Ils disaient, « En voilà un qui appelle Élie. » Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vin aigre. Il la fixa à un roseau pour lui donner à boire. Mais les autres dirent, « Laisse, voyons si Élie va venir le sauver. » Jésus poussa encore un grand cri et rendit l'esprit. Jusqu'ici, dans notre série sur les questions que Jésus pose, nous avons pour l'instant uniquement considéré des questions que Jésus pose à ses disciples. Mais celle qu'il pose dans le texte de ce matin, vous l'avez vu avec moi, il la pose à son Père. Son Père, d'ailleurs, qu'il n'appelle plus Père, mais qu'il appelle Dieu. Nous allons y revenir. Chers amis, quelle question que cette question à laquelle je nous invite à réfléchir ce matin. Quel cri, quelle souffrance exprimée dans ces mots, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Avez-vous déjà pris le temps, ne serait-ce que 5 minutes pour vous arrêter et pour réfléchir au sens de ces paroles, au sens de ce que Jésus exprime ici par cette question. Comment comprendre ces paroles ? Comment Jésus, qui est un avec le Père de toute éternité, pouvait-il être abandonné par son Père? Quel est le sens de cet abandon? Qu'est-ce que cela ne veut pas dire? Qu'est-ce qui est exprimé par Jésus au travers de ces mots, de ce cri. Est-ce une souffrance absolue? Est-ce l'échec de sa mission? Est-ce le doute qui le saisit? Est-ce une plainte accusatrice adressée à son Père? Que veut dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pourquoi Jésus ne dit-il pas « mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Oui, il faut le reconnaître, dès le départ de ce message, qu'essayer de cerner cette parole nous donne le vertige. Elle dépasse notre entendement et elle nous invite à beaucoup, beaucoup d'humilité. Alors que nous allons tenter de formuler une explication. Avant de nous arrêter sur notre question, quelques mots sur son contexte, c'est-à-dire sur la crucifixion de Jésus. Sur la croix, c'est donc notre deuxième point. Soulignons tout d'abord que seuls Marc et Matthieu rapportent cette parole de Jésus sur la croix. C'est la quatrième qu'il prononce, et vous le savez, il y en aura sept en tout. Après la mascarade de son procès, Jésus est maintenant cloué sur une croix. Une croix qu'il n'a pas pu porter jusqu'au bout, tant son corps était déjà meurtri, affaibli, par les coups, le manque de sommeil, les angoisses de Gethsémané, et j'en passe. Une croix qui a été plantée en dehors de la ville, sur le lieu nommé Golgotha, qui signifie « lieu du crâne ». Une croix où Jésus a été cloué par les soldats après qu'ils aient partagé ses vêtements en les tirant au sort. Une croix au-dessus de laquelle un écriteau a été placé, indiquant le crime du condamné. Cet homme est Jésus, le roi des Juifs. Et nous comprenons par là que la crucifixion de Jésus était pour les Romains politique. Il s'est proclamé roi, mais il n'y a qu'un seul roi dans l'Empire, c'est César. Une croix où Jésus se retrouve entouré de deux brigands. Une croix où Jésus est maintenant l'objet des moqueries des passants, des responsables religieux et des deux brigands qui l'entourent. Je lis les versets qui précèdent notre passage, les versets 39 à 44. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Il disait, « Toi qui détruis le sanctuaire et qui le reconstruis en trois jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les grands prêtres, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. » Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit, je suis fils de Dieu. Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Marc précise dans son évangile que la crucifixion de Jésus a commencé à la troisième heure. C'est-à-dire entre 8h et 9h du matin. Et il est maintenant midi, au début de notre passage, c'est la sixième heure. Et entre midi et 15h, c'est-à-dire entre la sixième et la neuvième heure, des ténèbres s'abattent sur le pays. Les astronomes ont fait tous les calculs possibles et imaginables, mais ils n'ont pas pu faire correspondre les différentes dates possibles de la crucifixion de Jésus avec une éclipse solaire. L'hypothèse de certains d'un obscurcissement du soleil par une tempête de sable, un nuage de poussière, me semble peu convaincante pour expliquer les ténèbres qui s'abattent sur le pays et qui durent aussi longtemps. Il reste l'option d'un obscurcissement miraculeux, incompréhensible, qui va durer pendant les 3 dernières heures jusqu'à la mort de Jésus. Certains, en s'appuyant sur des textes de l'Ancien Testament, font le lien entre des ténèbres et une manifestation divine, un jugement divin, et ils voient dans ces heures de ténèbres, lors de la crucifixion de Jésus, le signe, l'indication du jugement divin que Jésus est en train de subir sur la croix. C'est après ces 3 heures de ténèbres, vers la 9e heure, dit le texte, que Jésus crie, littéralement qu'il crie d'une voix forte, « Eli, Eli, lema sabachthani », c'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Un cri qui déchire les ténèbres, un cri qui fait écho à la noirceur des ténèbres environnantes, des ténèbres qui, à l'évidence, ont aussi enveloppé Jésus. Ce cri, c'est donc notre question du jour que je vous propose de chercher à comprendre maintenant. C'est notre 3e point et nous commençons par quelques précisions. Soulignons tout d'abord que Jésus s'exprime ici en araméen. C'est la langue du peuple. C'est sa langue maternelle. Soulignons ensuite que certains de ceux qui étaient présents ne comprennent pas ce que Jésus vient de dire quand il dit « Eli, Eli, lema sabachthani », pensant que Jésus appelle le prophète Élie au secours. Personne autour de cette croix ne comprend ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas une énième crucifixion, mais c'est le point de bascule de toute l'histoire de l'humanité qui est en train de se jouer. C'est le moment dans l'histoire des hommes où Dieu est en train de régler le problème du péché. Soulignons ensuite que Jésus, qui relatait sa relation à Dieu, qui relatait toujours sa relation à Dieu en l'appelant mon Père, nous trouvons ça 21 fois dans les évangiles, et qui, à ceux qui l'enseignaient, parlait du Père, et ça nous le trouvons 170 fois dans les évangiles, s'adresse ici maintenant à son Père pour la première fois en disant « Mon Dieu ». Nous y reviendrons, mais ces mots sont tellement moins intimes et ils disent avec force ce qui est en train de se passer, de se jouer à ce moment-là sur la croix. Soulignons enfin que ce cri de Jésus est en réalité le premier verset d'un psaume, le psaume 22, un psaume de David, un psaume qui est une plainte, la plainte d'un juste qui souffre. Notons que cette première parole du psaume 22, qui est reprise à son compte par Jésus, n'est pas la seule parole de ce psaume qui ait quelque chose à voir avec la passion de Jésus. D'ailleurs, les évangélistes vont puiser abondamment dans ce psaume pour citer différents passages au moment de la passion de Jésus. On en retrouve quelque chose dans les extraits que je vais lire maintenant. Et certaines de ces paroles, dans ces quelques extraits, décrivent, prophétisent de manière saisissante et tellement réaliste les souffrances que Jésus a subies sur la croix. Psaume 22, versets 7 et 8, « Quant à moi, je ne suis pas un homme, mais un ver, outragé par les humains et méprisé par le peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent les lèvres, hochent la tête. » Versets 15 à 19, « Je me répands comme de l'eau. Et tous mes os se disloquent, mon cœur est comme de la cire, il fond au milieu de mes entrailles, ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'entourent. Une troupe mauvaise m'encercle. Ils me lacèrent les bras et les jambes. Je peux compter tous mes os. Eux, ils observent. Je leur suis offert en spectacle. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. » Jésus connaissait bien évidemment ce psaume en entier. Et si vous le relisez à la maison, vous verrez qu'il se termine par l'assurance de l'exaucement. Au verset 22, nous pouvons lire « Tu m'as répondu », dit le psalmiste. « Tu m'as répondu ». Alors, fort de ce constat, certains pensent qu'en citant la première parole du psaume, Jésus avait forcément à l'esprit tout le reste du psaume, et en particulier cette assurance de la délivrance, cette assurance de l'exaucement, cette assurance de la victoire. C'est possible. C'est d'ailleurs, je pense, une évidence que Jésus connaissait ce psaume et la manière dont il se termine. Mais faire de cette possibilité l'explication de notre verset revient, à mon sens, à minimiser grandement ce que Jésus y dit, ce que Jésus y exprime. À vouloir passer trop rapidement à la victoire, on prend le risque d'atténuer considérablement le sens de ce cri de Jésus. Voir derrière les paroles « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» les paroles de foi et de victoire de la fin du psaume, c'est finalement passer à côté de ce que Jésus dit ici. En fait, il me semble évident qu'au moment où Jésus crie, il ne dit pas, il crie ce verset. À ce moment-là, Jésus ne triche pas. Il ne fait pas semblant de souffrir. Il n'est pas à ce moment-là en train d'exprimer la victoire, qui est bien sûr en ligne de mire. Il n'est pas à ce moment-là soulagé de ses souffrances parce qu'il connaît l'issue finale. Au moment où Jésus crie ce verset, il le vit pleinement. Il vit pleinement ce que ce verset dit et ce que ce verset exprime. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Pour avancer dans notre tentative de compréhension de cette parole, quelques mots maintenant sur ce qu'elle ne veut pas dire, sur ce qu'elle ne peut pas vouloir dire. Et je mentionnerai ici quatre compréhensions qui me semblent erronées. Premièrement, cette parole n'est pas la traduction du doute qui aurait saisi Jésus maintenant qu'il est sur la croix. Jésus qui se demanderait pourquoi. Pourquoi il serait en train de subir toutes ces souffrances? Pourquoi il serait en train de mourir? Il faut se souvenir ici que Jésus est venu. Il est venu pour mourir sur la croix. Bien évidemment, pour nos péchés. C'est ça le but de l'incarnation. C'était d'aller sur la croix pour payer le prix de nos péchés. Jésus dit dans Marc 10, verset 45, que le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie en rançon pour le péché de beaucoup. On pourrait mentionner ici, si on avait le temps, toutes les paroles de Jésus qui annoncent sa mort et sa résurrection, elles sont nombreuses. Non, nous écartons cette possibilité, cette parole de Jésus n'est pas la traduction du doute qu'il aurait saisi sur la croix. Deuxièmement, cette parole n'est pas non plus la traduction de l'échec de sa mission. La croix n'est pas un échec pour Jésus. Jésus ne s'est pas fait avoir par les autorités religieuses et par les Romains. On ne lui a pas pris sa vie. Il l'a donné volontairement, il s'est livré, il s'est offert. Et ici aussi, il y aurait beaucoup de textes à citer si le temps le permettait. La croix était dans le plan de Jésus, dans la volonté de son Père qui l'a envoyé. C'était le but de sa mission, de son incarnation. Et nous lisons même dans Apocalypse 13, verset 8, que Jésus est l'agneau de Dieu immolé dès la fondation du monde. De toute éternité, la croix était dans la pensée de Dieu. La croix était en perspective. Non, cette parole de Jésus n'est pas la traduction de l'échec de la mission de Jésus. Troisièmement, cette parole n'est pas non plus un cri de désespoir absolu. De désespoir, oui, mais absolu, non. Sans minimiser les souffrances de Jésus exprimées dans son cri et expérimentées dans son corps et dans son âme sur la croix, il faut dire quand même que Jésus savait, bien évidemment. Il savait que son départ était proche et qu'il allait vers le Père, Jean 14, Jean 16 et j'en passe. Jésus savait que le Père allait le ressusciter. Jean 2, Luc 18, Marc 9. Jésus savait qu'il endurait la mort sur la croix en vue de la joie qui lui était réservée. Hébreux 12, verset 2. Et nous pourrions continuer ainsi. Non, cette parole de Jésus, cette question qu'il adresse à son Père, n'est pas la traduction d'un désespoir absolu. D'un désespoir, oui, mais pas absolu. Et enfin, quatrièmement, dans la ligne de tout ce que nous venons de dire, cette parole n'est pas une accusation lancée à son Père qui serait en train de lui faire défaut. Quel que soit le sens que l'on va donner à l'abandon que Jésus exprime ici, nous nous souvenons avec les paroles de l'apôtre Paul, par exemple, dans 2 Corinthiens 5, verset 19, que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Nous nous souvenons aussi qu'en mourant sur la croix, le Fils, par obéissance, accomplissait la volonté de son Père. Non, cette parole n'est pas une accusation lancée à son Père. Si le sens de notre parole n'est pas ce que nous venons d'évoquer, alors quel est-il? J'aimerais ici proposer deux pistes principales pour esquisser les contours de notre parole. La première, c'est que notre parole dit toute la souffrance que Jésus est en train de subir que Jésus est en train de ressentir. C'est un cri rempli de la souffrance, de sa souffrance qui déborde. Un cri rempli de sa souffrance qui déborde. C'est un cri d'agonie. D'agonie parce que Jésus est en train de mourir. Il faut ici très brièvement se rappeler de quoi nous parlons quand nous parlons des souffrances de la croix. Et en fait, les souffrances de la croix, on peut les mettre dans trois catégories. Elles sont de trois natures différentes. Premièrement, il y a les souffrances physiques, les douleurs physiques de ce supplice ignoble, abject, barbare, cruel, atroce, odieux, inhumain qu'était la crucifixion. Ces souffrances sont bien sûr une évidence. Et tous les crucifiés, tous, pas juste Jésus, les subissaient de la même manière. Et il n'est pas nécessaire de croire que Jésus a souffert physiquement plus que les autres crucifiés. La Bible ne dit rien de cela. Ces souffrances physiques sont réelles et terribles, mais ce sont les souffrances physiques de tous les crucifiés. Deuxièmement, il y a les souffrances morales, psychologiques, du péché, des péchés, de notre péché que Jésus devait porter, endosser pour prendre la place du pécheur. Notre place, pour prendre notre condamnation et subir le jugement de Dieu, la colère de Dieu que nous méritions pour nos fautes. Et en réalité, même si, bien évidemment, on ne peut pas mesurer ces choses, je pense que c'est une évidence que ces souffrances étaient sans commune mesure avec les souffrances physiques, qui était bien évidemment terrible. Mais cette souffrance morale ou ces souffrances morales, nous avons beaucoup de mal, nous, à les appréhender. Pourquoi ? Parce que nous sommes pécheurs, tout simplement. Et parce que le péché nous habite, le péché nous est familier à nous qui sommes pécheurs. Il fait partie de notre vie, du début à la fin. Alors oui, il arrive parfois que l'angoisse nous saisisse pour une faute que nous avons commise. Il arrive parfois que la culpabilité d'un péché pèse sur notre cœur. Alors nous comprenons un tout petit peu ce que Jésus a peut-être ressenti. Sauf que là, nous parlons d'un péché. Mais Jésus, lui, nous parlons d'un péché ressenti par des pécheurs. Mais Jésus, lui, n'a jamais commis de péché. L'expérience du péché, c'est quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté. Il était parfaitement juste et saint, et il haïssait profondément le péché de tout son être. Le mal et le péché étaient totalement contraires à son caractère. Et c'est pourquoi porter notre péché, le péché de millions d'hommes et de femmes, et toute la souillure qui va avec, a dû être une souffrance incommensurable, abominable et profondément dégoûtante pour Jésus. L'apôtre Paul, pour parler de cette réalité, a une formulation très forte quand il dit aux Corinthiens que Jésus a été fait pour nous pécher. Il a été fait pour nous pécher. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pour nous pécher, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Oui, Jésus a été identifié au péché. Et ainsi l'apôtre Paul écrit dans 1 Pierre 2, 24 qu'il a pris nos péchés sur lui et il les a portés dans son corps portés dans son corps. Je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, mais il les a portés dans son corps. Quelle souffrance cela a dû être pour Jésus. Quelle souffrance. Et quand le prophète Ésaïe dit qu'il a été transpercé à cause de nos crimes, qu'il a été écrasé à cause de nos fautes, nous nous approchons un petit peu de ce que cela a dû être pour Jésus. Notons ici que c'est Dieu le Père, c'est Dieu son Père, qui a mis nos péchés sur Jésus. Comment, de la même manière que les péchés d'Adam nous ont été imputés, Dieu a imputé nos péchés au Christ, c'est-à-dire qu'il les a considérés, nos péchés, comme appartenant au Christ. Et ainsi, Dieu a considéré la culpabilité résultant de nos péchés comme appartenant, elle aussi, au Christ. Est-ce que c'était juste ? Oui. Oui, c'était juste parce que Jésus s'est donné volontairement. Bien sûr, si on l'avait forcé à le faire, ça ne serait pas juste. Mais parce qu'il a choisi de le faire, alors c'était tout à fait juste. Troisièmement, il y a en plus des souffrances physiques et morales, les souffrances de la condamnation qu'il subissait à cause de nos fautes. C'est-à-dire les souffrances du jugement de Dieu et de la colère de Dieu qui se sont abattues à ce moment-là sur Jésus. En acceptant de prendre notre place, notre condamnation, et en prenant notre péché, Jésus a accepté de subir pour nous, pour nous en épargner, le juste jugement de Dieu que nous méritions pour nos fautes. La juste colère de Dieu qui nous était réservée à cause de nos péchés. Oui, Jésus a accepté de souffrir et de mourir pour nos péchés, pour nous offrir le salut, la réconciliation avec son Père, le pardon de nos péchés, la vie éternelle et tant d'autres choses encore. Et c'est ainsi que sur la croix, Jésus a fait la propitiation de nos péchés. C'est-à-dire qu'il a détourné sur lui la colère de Dieu que nous méritions pour nos fautes. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. La mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Comme l'exprime le prophète Ésaïe dans ce chapitre bien connu, le chapitre 53, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Par la souffrance, c'est-à-dire toutes les souffrances que nous venons d'évoquer. Si la question de Jésus dit la souffrance, elle dit aussi l'abandon. L'abandon qu'il a vécu sur la croix. Abandon qui est aussi, bien sûr, une souffrance. La souffrance, selon moi, de la condamnation qu'il a subie et dont nous venons de parler. C'est notre deuxième piste de compréhension pour esquisser les contours du sens de notre phrase. Alors, il y a ici plusieurs choses à dire. Premièrement, et c'est là quelque chose de mystérieux, l'abandon que Jésus exprime par ce cri « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cet abandon, il est réel. Ce n'est pas juste de l'ordre du ressenti. C'est réel. Il est abandonné par son Père. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je ne pense pas personnellement, sans pouvoir entièrement l'exclure, qu'il y a eu à ce moment-là ce qu'on appelle, ce que les théologiens appellent une rupture ontologique, c'est-à-dire dans son être, dans l'être de Dieu au sein de la Trinité, comme si Dieu s'était séparé de lui-même, comme s'il y avait eu une déchirure dans l'unité éternelle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Personnellement, ça me semble impossible, mais je reconnais volontiers que je balbutie. Je balbutie cependant en m'accrochant ici à ce verset de 2 Corinthiens 5, 21 que j'ai déjà cité, où il est dit que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. En m'accrochant à ce verset d'Hébreux 9, 14 qui dit que c'est par l'Esprit éternel que le Fils s'est offert. En m'accrochant aux paroles de Luc 23, verset 46, où Jésus, quelques instants plus tard, quelques instants après avoir crié notre parole, va remettre son esprit dans les mains de son Père, qu'il n'appelle plus mon Dieu, mais mon Père, Père à ce moment-là. Alors si l'abandon dont nous parlons n'est pas ontologique, de quelle nature est-il ? En fait, ce que je comprends, c'est que le langage de l'abandon dit la condamnation, dit le jugement de Dieu, dit la colère de Dieu qui s'est abattue sur Jésus en tant qu'homme parce qu'il portait nos fautes. Comme le dit Henri Blocher dans cette citation, Jésus a dû formuler l'expérience qu'il faisait effectivement en son âme d'homme, d'homme chargé de tous les péchés. Ce que ce cri d'abandon exprime, c'est que l'homme Jésus a souffert ce que la Bible appelle la seconde mort, c'est-à-dire la mort spirituelle, ou son équivalent sur la croix. Nos péchés qu'il portait l'ont séparé de Dieu. Nos péchés lui ont fait subir sans atténuation aucune le jugement et la colère de Dieu qui était la juste condamnation pour nos fautes qu'il portait. Ce que ce cri d'abandon exprime, c'est que c'est tout seul, que Jésus, homme, a affronté cette douleur, ce jugement, cette colère. C'est ce que signifie pour moi le fait qu'il n'appelle plus son Père, Père, mais Dieu. Sur la croix, Jésus, en tant qu'homme, était privé de cette intimité, de cette douce communion avec son Père, qui avait été sa joie et sa force tout au long de sa vie terrestre. Ce que ce cri d'abandon exprime, c'est que Jésus est à ce moment-là, en train de boire la coupe de la colère de Dieu, et il est en train de la boire jusqu'à la lie. Ce que cet abandon exprime, c'est que Jésus a été fait malédiction pour nous. Comme le dit l'apôtre Paul dans Galates 3, verset 13, « Le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit soit quiconque est pendu au bois ». Ce que ce cri d'abandon exprime, c'est que la souffrance de Jésus en tant qu'homme n'en finissait pas, et que le moment de la délivrance se faisait attendre. On pourrait ici paraphraser « mon Dieu, pourquoi me laisses-tu souffrir aussi longtemps ?» C'est en tout cas le sens qu'on peut donner à cette parole au début du psaume 22. Et à ce sujet, j'ai bien aimé ce qu'écrit le théologien Wayne Grudem, et il dit ceci. Jésus, dans sa nature humaine, savait qu'il devait porter nos péchés, souffrir et mourir. Mais dans sa conscience humaine, il ne savait probablement pas combien de temps cette souffrance durerait. Or, porter la culpabilité de millions de péchés ne serait-ce qu'un instant, causerait l'angoisse la plus intense. Affronter l'ardente colère d'un Dieu infini, ne serait-ce qu'un instant, provoquerait la peur la plus profonde. Mais la souffrance de Jésus n'a pas pris fin au bout d'une minute, ni de deux, ni de dix. Quand cela se terminerait-il ? Restait-il des péchés à porter, de la colère divine à endurer ? Heure par heure, cela a continué. Le poids terrible du péché et la colère profonde de Dieu ont continué à se déverser sur Jésus, vague après vague. Et Jésus s'est finalement écrié, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Pourquoi cette souffrance doit-elle se prolonger aussi longtemps ? Ô Dieu, mon Dieu, ne vas-tu jamais y mettre un terme ?» Et puis Jésus a su que sa souffrance touchait à sa fin. Il a su à un moment donné qu'il avait subi toute la colère du Père contre nos péchés. Parce que cette colère s'est apaisée. Et le poids terrible du péché a disparu. Jésus a su alors que tout ce qui lui restait à faire était de remettre son esprit entre les mains de son Père et mourir. Et c'est ainsi que Jésus s'est écrié victorieusement, « Tout est accompli, tout est accompli. » Et puis il s'est de nouveau écrié d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Oui, après avoir subi notre condamnation, subi le jugement et la colère de Dieu, après avoir payé pour nos fautes, après avoir été fait malédiction pour nous, Jésus a achevé. Il a achevé son œuvre de salut. Et c'est la raison pour laquelle vous et moi n'avons rien d'autre à faire pour être sauvés. Parce que tout a été accompli à ce moment-là, sur la croix. La part qui nous revient, ce n'est pas d'ajouter quelque chose qui manquerait, puisque tout a été accompli, mais simplement de l'accepter. Accepter pour soi et par la foi le sacrifice de Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui ôte mon péché. Accepter la main tendue de Dieu qui nous offre la réconciliation. Accepter son amour merveilleux manifesté à la croix. Un amour à la hauteur des souffrances que Jésus a dû endurer. Chers amis, quel amour que l'amour de Jésus qui a accepté de subir à notre place, à la place du pécheur, tout ce que j'ai essayé, en balbutiant quand même un peu, de vous décrire ce matin. Quel amour que l'amour de Jésus qui a tout subi, pour que nous n'ayons jamais à connaître, si nous sommes en Christ, par la foi, ni la condamnation, ni le jugement, ni la colère de Dieu, et ni son abandon. Que le Seigneur nous accorde de comprendre ces choses, et surtout qu'il nous accorde de les recevoir par la foi. Qu'il nous accorde de les recevoir par la foi, parce que Dieu a tant aimé le monde. Et tout ce que nous avons dit ce matin, c'est ce petit adverbe. Tant aimé le monde. Il n'a pas juste aimé, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen.